Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Vous êtes bien sur RMC, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, comme tous les samedis, en compagnie aujourd'hui de Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, David Douillet et Christophe Cessieux. Avec une bande pareille, comment ne pas se prêter au jeu, le jeu qu'RMC vous propose, puisque mercredi prochain, nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris. On vous offre donc sur RMC 100 places pour les Jeux. Dès aujourd'hui, dans chaque émission, ça va commencer avec Anaïs dans la matinale, vous allez pouvoir remporter vos deux places pour assister aux épreuves des Jeux Olympiques. Cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, quatre-nage et bien plus encore. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez à Paris 2024 au 7-32-16. Alors vous êtes libre de mettre un espace ou pas entre Paris et 2024. Paris 2024 au 7-32-16. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort dans l'émission tout à l'heure à 11h40. En attendant, à 10h30, on s'intéressera à l'une des déclarations de la semaine. Vous savez, c'est la punchline. Le président du Paris Basket, qui a remporté hier l'Eurocoupe, qui est devenu le cinquième club de basket de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe. David Kahn, qui souhaite voir le basket devenir le deuxième sport collectif dans la capitale, derrière le foot et le PSG, évidemment. Mais regarde pas comme ça, Olivier.
Le pire, c'est que tu as inventé un regard. J'étais en train de regarder complètement dans le
flou. Mais on est à la radio, justement. On peut faire croire aux auditeurs que tu me regardes méchamment. Bon, vous aurez évidemment des choses à dire. Est-ce que nos grandes gueules croient au pouvoir du basket dans la capitale? On en reparle évidemment à 10h30. Mais pour l'instant, comme chaque samedi à cette heure-ci, les combattants entrent dans l'arène. On va parler rugby dans les GG, puisqu'on l'a appris cette semaine, le serpent de mer de la Coupe du Monde des clubs persifle plus que jamais, selon nos confrères de la presse britannique. La première édition devrait donc se tenir en 2028. Tous les 4 ans, un tournoi étalé sur un mois qui réunirait 16 clubs, 8 issus de l'hémisphère nord, dont l'Afrique du Sud, soit les formations désormais éligibles à la Champions Cup, anciennement Coupe d'Europe. 6 formations de l'hémisphère sud, les équipes qui viennent du super rugby, néo-zélandaise et australienne, ainsi que les 2 meilleurs clubs japonais. Objectif, aller chercher des nouveaux sponsors, de nouveaux droits télé, en gros un petit peu d'argent frais pour un sport qui souffre financièrement, notamment certaines fédérations depuis la crise du Covid en 2020, notamment une innovation de plus dans ce sport qui, je vous le disais, tente de trouver un nouveau modèle et un nouvel équilibre financier. À ce titre, l'intégration depuis la saison dernière des franchises sud-africaines au tableau des deux Coupes d'Europe est déjà vivement critiquée. Dans le coin droit, il pense que ces innovations vont tuer le rugby, Sarah Pitkowski et David Douillet. Dans le coin gauche, il pense au contraire que ces innovations vont contribuer à sauver le rugby, Christophe Cessieux, Olivier Giraud. C'est parti pour le bras de fer des grandes gueules.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant il est plus fort que l'hippopotame?
Alors avant de vous laisser vous expliquer autour de cette question, on va accueillir Romain Asselin de la rédaction RMC Sport. Salut Romain.
Salut les grandes gueules.
Salut Romain.
Romain, on rappelle, tu seras au commentaire tout à l'heure de la rencontre entre le Leinster et La Rochelle. C'est un grand week-end de Coupe d'Europe, enfin de Coupe d'Europe, de Champions Cup, sur l'antenne de RMC. Tu es, toi, au plus près chaque week-end, on le vit tous les samedis, tous les dimanches avec toi en top 14, au plus près des acteurs du rugby français, qui ne sont pas vraiment fans de cette ouverture du rugby continental aux franchises sud-africaines.
Et ce n'est pas le dernier épisode en date du feuilleton qui va apaiser les griefs. Ça fait beaucoup réagir cette semaine. Les Bulls se sont vus affréter 8 avions différents pour rallier l'Angleterre et acheminer au compte-gouttes l'équipe qui affronte Northampton ce soir en quart de finale. Une équipe bis en plus, 14 changements par rapport au 8e. Est-ce que vous avez une idée, les GG, de la facture totale du déplacement?
C'est énorme.
200 000 euros pour un quart où les dés semblent déjà pipés avant même le coup d'envoi. Alors le directeur du rugby des Bulls, Jack White, qu'on connaît bien en France, pointe du doigt la fédération sud-africaine qui a soumis les projets de voyage. Ça ne tient pas la route. Si on veut être la meilleure équipe du monde, c'est ce qu'il dit, il faut faire les choses correctement. Réponse de la Fédé qui dit en gros, vous êtes bien gentils les gars, 48 heures avant le départ, on ne savait rien du déplacement. C'est vrai, l'affiche et la programmation sont tombées dimanche soir. Bref, tout ça fait quand même doucement rigoler le manager de Toulouse, Hugo Mola.
L'équité, elle est à la base de la compétition. On n'est pas surpris de l'éloignement de l'Afrique du Sud avec l'Europe. Moi, c'est comme quand les joueurs se plaignent du Boxing Day. Et regardez le calendrier au mois d'août. Commencez à vous plaindre maintenant et puis vous plaindrez à la fin. Après Jack White, je comprends le périple qu'il est en train de vivre et de l'accompagnement pour aussi voyager dans de bonnes conditions. Après, peut-être que l'anomalie, c'est juste que les Sud-Africains jouent une Coupe d'Europe.
Et il y a aussi l'aspect aberration écologique qui est soulevé par les détracteurs, ils sont nombreux. Alors à vol d'oiseau, plus de 10 000 km séparent Pretoria en Afrique du Sud de la banlieue de Londres. C'est sans compter, hein, je vous épargne les escales et les détours faits par les Bulls, par le Qatar par exemple. On a demandé hier à Grégory Aldrit si cette compétition avait encore du sens en l'état. Le capitaine de La Rochelle et du 15 de France regarde la situation d'un œil, disons, plutôt impuissant.
Si je te dis, c'est comme ça, de toute façon, il faut qu'ils aillent au bout de leurs idées et ils sont obligés de faire jouer le match, donc ils mettent tous les moyens en œuvre pour que ça se réalise. Après, c'est sûr que ça peut paraître beaucoup de sous-dépenser, mais voilà, c'est les phases finales et qu'on peut pas prévoir à l'avance, hein. Donc compliqué. Mais bon, chacun ses soucis, j'ai envie de dire, je leur laisse.
Eh oui, parce que La Rochelle a un peu d'autres chats à fouetter à l'instant T avec ce quart de finale à Dublin cet après-midi, 18h30 face au Leinster, une finale avant l'heure. Mais en même temps, le double tenant du titre vient de subir de plein fouet les conséquences de l'intégration des franchises sud-africaines avec un huitième de finale joué au Cap face aux Stormers samedi dernier, le même déplacement qu'en poule d'ailleurs, périple de quelques 20 000 km aller-retour. Résultat, eh bien une semaine de préparation mutilée avant ce choc des titans. Écoutez bien le manager rochelais Ronan O'Gara, il met un petit tacle au passage aux Bulls, taxé quelque part de balancer presque leur quart de finale aux dépens de leur championnat domestique.
On a passé 40 minutes sur le terrain mardi, 40 jeudi. On a déjà fait le voyage Afrique du Sud deux fois. On est un peu partout. Il y a des autres qui choisissent une different équipe pour prioriser le URC, you know. So, tu dois aussi poser la question pourquoi La Rochelle et Leinster sont dans un quart de finale. C'est un peu bizarre parce que c'est deux équipes qui peuvent gagner le tournoi. Ça, c'est sûr. Il y a un autre, un ou deux sur huit, je pense, qui peuvent aussi gagner, mais il n'y a pas six autres équipes qui peuvent gagner.
En gros, Gara, il dit aux Bulls, non seulement vous envoyez une équipe bis pour jouer un quart factice, mais en plus, dans le même temps, il y a un cador qui va rester sur le carreau, La Rochelle ou Leinster.
C'est bien, alors, c'est sachez... bien que tu traduises, Romain, parce que quand même...
Parfois, il faut recontextualiser, on est d'accord. Hein. Sachez les grandes gueules avant de débattre qu'il y a une possibilité que La Rochelle et les Bulls se croisent en demi-finale, ce serait début mai. Le cas échéant, ce serait pas en Afrique du Sud, pas une troisième fois pour La Rochelle, le match aurait lieu au Royaume-Uni.
Merci beaucoup Romain Asselin qui sera au commentaire de la rencontre entre le Leinster et La Rochelle, ce classique désormais de la Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions hein, pour le rugby. Vous n'en manquerez pas une miette sur l'antenne de RMC. Bordeaux-Bègles, Harlequin, c'est à 16h. Northampton Bulls, donc de Pretoria à 21h. Et puis en challenge, hein, l'autre Coupe d'Europe, Clermont reçoit l'Ulster à 13h30. Tous ces matchs sont à suivre évidemment en fil rouge sur l'antenne de RMC. Romain, tu peux rester avec nous éventuellement si tu veux intervenir dans ce débat. Je donne la parole à Christophe. Alors j'étais un petit peu surpris lorsqu'on m'a envoyé les réponses. Toi, tu penses que ces innovations, on rappelle, hein, je parlais de la Coupe du Monde des clubs également qui verra le jour en 2028, elles sont bonnes, elles sont au moins inévitables selon toi pour le rugby.
C'est surtout, je dis pas qu'elles sont bonnes, mais je pense qu'elles sont indispensables si le rugby de club dans le monde veut continuer à exister. C'est quoi l'économie du rugby de club dans le monde ? En France, tu as un rugby club très puissant avec le championnat, le top 14 qui se suffit à lui-même, qui existe. C'est une tradition française et ça fonctionne très bien. Ça a toujours très bien fonctionné avant même qu'on institue une Coupe d'Europe. En Angleterre, tu as aussi un championnat, mais un championnat qui a sérieusement morflé avec la crise du Covid. Plusieurs clubs ont fait faillite et aujourd'hui, ils sont un peu tendus, ils sont un peu à la limite financière et ils ont donc besoin de cette Coupe d'Europe pour redorer leur blason et surtout enrichir leur économie. Et
puis, ils ont trois clubs en quart de finale, hein, d'ailleurs. Les Anglais, c'est première depuis 2016.
Ouais, ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas eus à ce niveau-là. Et puis, le reste des pays, c'est plus compliqué. Les franchises galloises sont quasiment inexistantes. Les franchises italiennes, n'en parlons pas. Les Écossais ne sont pas terribles. Il y a l'Irlande qui a quatre équipes. Mais enfin, ce n'est plus vraiment des clubs. Ce sont des franchises, des sélections de provinces. Ouais. Et puis, de l'autre côté, tu as l'Afrique du Sud qui est un peu sur ce même modèle. Et si on veut que ce rugby qui a quand même donné de belles choses, je veux dire les affrontements entre le Leinster et La Rochelle, les deux dernières finales et le match auquel on va assister cet après-midi, c'est devenu aujourd'hui un truc indispensable. Mais
c'est tellement bien qu'ils se retrouvent en quart. c'est un peu une hérésie quand même.
Oui, parce
tu vois ce que je veux dire, c'est que si tu veux que ton rugby fonctionne,
tout ça, c'est très très mal foutu. Je suis d'accord avec toi, Sarah.
C'est très mal foutu. C'est pour attirer les télés, c'est de créer des duels, du storytelling où tu retrouves ces grandes équipes qui t'ont fait vivre ces émotions. Et à force de tout remettre dans un énorme saladier, de mélanger, d'essayer d'inventer des choses, mais t'en perds ton latin. Ouais. Alors je sais pas si ça va tuer le rugby, mais alors la solution là. Elle va certainement pas la sauver.
Elle est certainement pas la sauver. Elle est assez catastrophique.
T'imagines, en termes de développement durable,
tout ça, c'est une catastrophe.
Mais ça ne tient pas la route.
Au bout du tuyau, il y a quand même des gens qui regardent, qui consomment le rugby et qui influencent les droits. Les droits télé, les droits de transmission, etc.
Oui, c'est là où il y a le nerf de la guerre.
Et donc, aussi... qui vont influencer les futurs partenaires sur la pertinence d'investir sur tel ou tel club ou le rugby au sens large. Si la lecture d'une compétition, ce qui va être le cas à mon avis,
c'est déjà le cas.
Championnat d'Europe qui n'en est plus un, d'une Coupe du Monde de clubs où les Français qui aiment le rugby, je suis pas sûr qu'ils connaissent tous les clubs de chaque pays, etc., etc. Si les principaux consommateurs au bout du tuyau ne se sentent pas concernés, ne se sentent pas accaparés par une compétition captivante, parce que le rugby est quand même un sport de territoire, ça prendra jamais. Les droits vont pas se vendre cher, les annonceurs ne vont pas payer très cher, et tout ça va s'aplatir.
Mais la conséquence, c'est que cette Champions Cup là, les stades en Afrique du Sud sont vides, sont totalement vides, et les clubs sud-africains, ils envoient des équipes B. Enfin, je veux dire, ils peuvent déjà tirer des leçons de ce qu'ils ont voulu faire en tentant d'ouvrir cette Coupe d'Europe. Ils ont déjà des conséquences qui sont négatives, et donc ils vont inventer quelque chose supplémentaire. Et quand on va en 2028, on va arrêter la Champions Cup en huitième de finale pour aller prendre les clubs pour faire la Coupe du Monde des clubs. Il faut un dictionnaire. Il y a un problème dans ce sport, c'est qu'il est tellement éclaté dans les pays du monde qu'il est très difficile à rassembler. Est-ce que tu, dans la présentation,
qu'est-ce que vous voulez alors? Vous voulez qu'on revienne au top 14? Vous voulez qu'on revienne au championnat de province?
Mais j'ai pas de solution.
Vous voulez que Mont-de-Marsan affronte Dax?
Mais Christophe, tu disais le top 14. En fait, on est en train d'aspirer vers le bas le top 14.
Effectivement, je pense qu'ils ont raté leur feuille de route. C'est complètement raté, mais je pense qu'on est obligé, si le rugby veut continuer à s'internationaliser...
Oui, mais cette solution, c'est pas la bonne, on est bien d'accord.
Un sport, c'est pas que le haut niveau, attention. C'est ça.
Ils ne développent pas les pays qui jouent pas.
Là, on parle de haut niveau, on ne parle pas des...
Oui, mais le haut niveau découle de quoi? Découle du sport de masse. Or, si tu renforces pas ta base dans la pratique,
quand un papa et une maman, on s'en fout, des parents,
quand des parents amènent leur gamin faire un sport, ils s'intéressent à ce sport, même s'ils sont pas forcément des aficionados au démarrage, et ça te permet de créer un fond de sauce qui va aller, je parle à l'échelle du monde entier, pour l'IRB. Ils font une grosse erreur. Ils prennent le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'ils veulent structurer le rugby mondial à travers le haut niveau. C'est une connerie. Il faut structurer le rugby mondial à travers la base, la pratique, la qualité de pratique dans tous les pays. Et là, tu renforces ta base, là, tu renforces l'intérêt, et là, tu peux faire grandir les clubs.
Mais est-ce qu'on parlait du rugby géorgien, du rugby roumain. Pourquoi on les aide pas à se développer pour en faire finalement des nations en plus qui vont pratiquer le rugby à haut niveau? On en a parlé quelques fois de ces pays-là.
Oui, et pourtant, il n'y a rien. Alors eux, leur rugby de club n'est pas invité à affronter La Rochelle, Toulouse, etc. Il faut aussi une compétition avec des équipes d'à peu près
mais
de même valeur.
Est-ce qu'il n'y a pas des
quand
investissements
quand tu vas affronter les franchises sud-africaines, je suis désolé, même si elles envoient parfois des équipes bis, mais enfin la semaine dernière, on a eu des matchs.
Mais si tu cherches à l'international,
l'intérêt d'un match de haut niveau, c'est que les deux équipes sont à peu près du même niveau.
Vision visions à long terme. Ah, là, c'est là, des visions à court terme.
Pas à long terme. Oui, mais alors, à long terme, je suis désolé, mais à long terme, il n'y aura plus de sport de haut niveau. Il n'y aura plus de déplacement international. Si tu parles sur le long terme. Mais parce que tu crois que les tennismen qui font le tour du monde, qui partent à 150 en Australie, en Afrique du Sud, tu crois que ça aussi, ça existera dans 20 ans. À long terme, je pense que tous les sports de haut niveau sont condamnés.
Mais par le transport.
Bah, exactement. Alors,
le bilan carbone.
On va demander à tout le monde. Propre, Christophe, d'ici là. Oui. T'inquiète pas.
S'il y a des avions à hydrogène,
bien sûr.
Olivier, on t'a pas encore entendu sur le sujet.
L'IRB, moi, c'est...
L'IRB International Rugby Board, voilà. On précise, l'équivalent de la Fédération Internationale.
On discute de plein de trucs, mais moi, je vais plutôt partir de là. Je pense qu'à l'IRB, il y a une chose qui ne leur plaît pas du tout. Hein. C'est que le plus grand championnat du monde, il soit français. Les meilleures organisations de Coupe du Monde et celles qui rapportent de l'argent.
Doucement
sur celle-là, oui. Mais qui ramène du monde. Les meilleurs organisateurs aujourd'hui, je suis désolé, ce sont les Français. Mais par contre, l'hégémonie politique.
Dis pourquoi.
Elle est pas française.
Non, mais là, je suis pas d'accord avec toi.
Dis pourquoi on est les meilleurs.
Parce qu'il y a des gens qui ont organisé pour qu'on soit bon.
Oui, non, mais parce qu'il y a des clubs dans lesquels il y a des gamins.
Exactement.
Des gens qui se sentent concernés
et le modèle
qui consomment
français,
le rugby. Voilà.
Le modèle français, si tu regardes même la Pro D2, tu parlais des clubs sud-africains de première division où les stades sont vides. En France, les stades sont pleins.
Oui.
C'est-à-dire que la France a
parce
réussi
qu'on a
ce pari.
Une vraie tradition de rugby.
Oui,
mais c'est ce qu'ils n'ont pas les autres pays. C'est ce qu'il faut construire. Et ça se construit dès la base. Et ça ne se construit pas par le haut niveau, au démarrage. Au démarrage, une culture se construit à travers des gens, des familles, des enfants qui viennent comprendre et apprendre le rugby.
Mais David, en Afrique du Sud, le rugby se pratique aussi à bas niveau.
L'Afrique du Sud n'existe que tous les 4 ans. C'est-à-dire que oui, ils ont pris les Coupes du Monde.
Mais ils existent bien.
Mais en dehors de ces 4 ans,
ça veut dire que les joueurs tombent du ciel comme ça. Arrivent du ciel et ils sont champions du monde tous les ans. Parce qu'il y a une formation en Afrique du Sud, parce qu'ils jouent dans les clubs avant de jouer en sélection.
C'est une culture.
Oui, mais la culture du sport, tu confonds culture et haut niveau. C'est deux choses différentes. Tu peux avoir un haut niveau qui fonctionne très bien et une culture qui est atone. Et des gens qui ne consomment pas le rugby et qui n'alimentent pas le modèle économique du rugby.
L'Afrique du Sud, je finis, était un sport uniquement blanc pendant des centaines d'années.
Oui.
Et petit à petit, de par les réformes qui ont été faites en Afrique du Sud, de plus en plus la population noire est arrivée aux commandes. Et aujourd'hui, tu as des équipes vraiment, vraiment mixte et c'est l'une des réussites du rugby sud-africain. Me dire qu'il n'y a que le haut niveau en Afrique du Sud, non, les gamins, ils vont les chercher dans les townships et ils les forment devenir des rugbymen.
J'avais parlé de l'Afrique du Sud, c'était pas du tout pour dire les blancs, les noirs, non, ça n'a rien à voir. On parlait de la question qui était posée à la base. Est-ce que ces innovations sont positives ou pas? Ces innovations, elles sont poussées parce que le discours général, et tout le monde le sait, le rugby fonctionne bien, mais le rugby n'est pas universel. C'est rendre le rugby universel.
Oui,
et c'est
une question. Ils veulent que ça ramène de l'argent. L'IRB, c'est déjà comment remplir les caisses, c'est ça leur première question.
Mais ça va avec. Et pour ce faire, tu as besoin qu'il y ait des championnats mondiaux. Et en fait, c'est. Est-ce que c'est la fin de la Coupe d'Europe?
Tu peux faire tous les championnats.
On parlait de la Coupe d'Europe. Est-ce que cette Coupe d'Europe, elle intéresse vraiment?
Une Coupe d'Europe
avec les mêmes équipes.
Avec des clubs d'un autre continent.
Elle avait déjà du mal à susciter quand même de l'intérêt avant l'ouverture à des franchises sud-africaines qui, je suis d'accord, dénature un petit peu le concept de Coupe d'Europe.
Et là, est-ce qu'elle s'est encore plus affaiblie ou elle est juste restée au même niveau?
Eh ben, on va poser la question à Laurent, supporter de La Rochelle, qui a fait le 32-16 parce qu'il veut intervenir dans ce débat. Bonjour Laurent.
Bonjour à tout le monde. Bonjour.
Laurent, supporter de La Rochelle. On rappelle que La Rochelle est allée s'imposer le week-end dernier sur la pelouse des Stormers, donc en Afrique du Sud. Quel est ton sentiment, toi, sur le débat là, auquel tu veux participer?
D'abord, je vous écoute attentivement. Moi, je suis un supporter de rugby pour La Rochelle depuis la fin des années 2000, quand on était en Pro D2. Puis après, je vais régulièrement à Marcel de Flandre. Je ne suis pas Rochelais, je vis au Sable d'Olonne. Et moi, j'ai un sentiment un peu bizarre depuis 2-3 ans par rapport au rugby. Je suis totalement d'accord avec David, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui fait l'essence même du rugby, c'est la base. C'est ce qui se passe en amateur, c'est l'esprit rugby qu'on est en train de perdre dans un premier temps, qu'on a perdu il y a quelques années en France par rapport au professionnalisme et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la nécessité de rentabilité, la notion capitaliste qui consiste à à mettre de plus en plus de matchs pour qu'on fasse de l'argent, alors que c'est pas l'esprit du rugby. Et là, on prend les problèmes à l'envers, parce que on voudrait que le rugby soit plus populaire au niveau mondial. On voit très bien, il y a plein de pays qui ne pratiquent pas le rugby. Et c'est pas en faisant ce que fait l'IRB qu'on va permettre un décloisonnement des modes de rugby et des fonctionnements entre pays. C'est justement en travaillant sur du petit qui s'agrandit. On travaille sur la France, puis après on va travailler sur les pays autour, puis après on va aller chercher des nations qui sont émergentes comme la Roumanie, etc. Et au fur et à mesure, on va avoir une ouverture mondiale. Là, c'est n'importe quoi. Moi, je suis fan de rugby et tous les potes que j'ai, toutes les amies et des amis qui regardent le rugby me disent, mais on a de moins en moins envie de le regarder. Cette Coupe d'Europe, elle nous intéresse pas. C'est devenu n'importe quoi. Et le problème, c'est que moi, je le vois aussi. J'en parlais avec un éducateur de rugby au club de rugby de ma ville qui disait, mais des mômes ont moins envie de faire du rugby qu'avant parce que c'est un état d'esprit qui s'est perdu. Ça devient quelque chose. Et on voit bien, ça part dans tous les sens. Regardez ce qui se passe. Alors, je fais une analogie, mais le fait que, par exemple, Dupont et Tamac partent au rugby à 7, c'est pas simplement pour les JO, c'est qu'ils cherchent. Ils disent, tiens, il y a peut-être de l'argent à faire sur le rugby à 7.
Est-ce qu'on est sûr de ça, alors? Oui.
Ben pour moi, ça part dans tous les sens, en train de perdre l'esprit. Et on oublie une chose, c'est le sport, c'est une pyramide. Là où je suis d'accord avec David Douillet, c'est-à-dire que la base de la pyramide, ce sont les gens qui le font en club, c'est les petits clubs le matin, le dimanche matin. Et là, on est en train de faire n'importe quoi. Et moi, j'ai peur que dans 10 ans, il y ait moins de monde qui
suit. Et oui, attention, mais à l'international, ils ne pensent pas comme ça.
La voix de
le modèle français n'est peut-être pas un modèle que l'on peut reproduire dans d'autres pays, parce qu'ils sont structurés totalement différents.
Et puis il y a un principe de réalité, les amis qui se heurtent évidemment au grand principe du rugby de village, du rugby chez les jeunes, c'est que l'IRB a besoin d'argent et les fédérations ont besoin d'argent maintenant. Merci beaucoup Laurent d'avoir fait le 32-16, Laurent qui va suivre quand même évidemment le quart de finale de Champions Cup, Leinster, La Rochelle, le nouveau classique à 18h30, vous le suivrez évidemment sur RMC. Merci beaucoup à Romain Asselin qui a participé à ce débat et qu'on retrouve vos commentaires à l'antenne. Puis je précise à Christophe Cessieux que pour ceux qui aiment voir Mont-de-Marsan et Dax s'affronter, il n'y a qu'à regarder la Pro D2 puisqu'ils figurent dans le même championnat.
Moi je regarde tous les matchs.
Cher Christophe, allez, vous ne bougez pas, les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. On va instruire l'une des punchlines de la semaine. Elle sort de la bouche de David Kahn, le président du Paris Basket qui a remporté l'Eurocoupe hier. Le Paris Basket qui vise le haut du panier dans la capitale.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
10h33, vous êtes bien sur RMC, les grandes gueules du sport, en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Olivier Giraud et un David Douillet, estomaqué durant la pub, qui a appris l'apparition d'un nouveau
modèle de barbecue. C'est très important. On est à l'aube de l'été.
Il a sauté de sa chaise.
Mais bien sûr, évidemment, c'est hyper important. Bon. Ça, c'est de la culture française.
Et comment tu vas faire ce week-end? Pas de barbecue alors?
Non, là, c'est week-end bâché.
Aïe, 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 pas de barbecue à Paris. Dans un quart d'heure, le zapping des grandes gueules du sport avec entre autres les espoirs de Renaud Lavillenie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous nous direz si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, comme chaque samedi à 7h06, on se penche sur l'une des déclarations de la semaine. C'était dans Basket Time, notre excellent podcast à la rédaction RMC Sport.
RMC, la punchline GG.
PSG has done a magnificent job the last decade.
Le PSG a accompli un travail magnifique au cours de la dernière décennie, changeant la nature des affaires sportives dans la capitale. Nous avons énormément de respect pour ce qu'ils ont fait, et ce que nous voyons ici, c'est qu'après le PSG, il n'y a pas vraiment de deuxième club à Paris. Je suis désolé si vous êtes un fan de rugby, de handball, mais quand je suis dans le métro, je vois du PSG partout. Je ne vois pas de Stade Français ni de Racing 92. Il y a une grande opportunité pour nous de devenir le deuxième club parisien après le PSG.
Alors oui, Christophe, c'est un Américain. C'est David Kahn, le président du Paris Basketball. Olivier, oui.
Ça va être hyper intéressant, ça veut dire qu'à peine arrivé, il balance ça, il va vite apprendre notre ami américain qu'il n'est pas aux États-Unis et il va se faire beaucoup d'amis. Ça va. Mais par contre, il vient de faire connaître son club, hein, parce que ça va faire réagir. Et derrière, il a intérêt d'être très bon parce qu'on a une spécialité en France, c'est de garder les sons pour te les remettre dans la tronche le lendemain. Mais oui, commence bien, ça veut dire qu'il ne part pas dans un principe de se faire des amis. Alors, il part du principe de tout de suite de se dire je suis le meilleur. À l'américaine, c'est magnifique.
On va faire ce débat ensemble. Le Paris Basketball qui est devenu hier soir le cinquième club français de l'histoire à remporter.
C'était quoi? Je ne savais même pas.
On s'en fout?
Je ne savais même
alors
pas.
Alors, les amis, c'est tout à l'heure.
La Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe de basket, on pourra en parler aussi de l'importance de la Coupe d'Europe de basket.
Nous, on s'en fout pas parce qu'on l'a vécu plus sur RMC. On va. Verra-t-on, comme le souhaite David Kahn, bientôt du Paris Basketball dans le métro? La balle orange peut-elle devenir, oui ou non, le deuxième club de sport co dans la capitale? Un oui, un non, David.
Oui.
Oui pour David. Sarah?
Plutôt oui.
Plutôt oui pour Sarah. Christophe Cessieux?
Non.
Non pour Christophe. Olivier Giraud?
Ouais, peut être le club qui va alimenter la NBA, ouais, mais ouais.
Donc oui pour Olivier.
Mais c'est contradictoire.
Wayne Banyama est passé.
Dans un instant,
il est parti, le club il disparaît.
Mais le débat dans un instant. Mais avant de vous laisser,
c'est une ligue de développement le basket français. Qu'est-ce que vous me disiez?
Avant de vous laisser développer vos arguments qui m'ont l'air nombreux et différents. Bon. Non, écoute, ça va. Je vais plutôt me tourner vers Arnaud Valadon, notre spécialiste basket. Merci David, de la rédaction RMC Sport. Salut Arnaud.
Salut Simon, salut les GG.
Arnaud, on parle d'un club encore tout jeune qui, en à peine 6 ans d'existence, s'est imposé sur la carte du basket français et désormais européen.
Tout démarre en 2018 lors du rachat des droits sportifs du club de Hyères-Toulon. Paris débute alors en Pro B, la deuxième division, et accédera à l'élite qu'en 2021. Cet été marque un tournant avec l'arrivée d'un nouveau coach, le finlandais Tuomas Disalo, en provenance de Bonn. Il a ramené avec lui 6 joueurs de son ancienne équipe, dont Michael Kessets.
C'est un aboutissement d'un travail qui a commencé en août. Et c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'était notre objectif, on va pas se le cacher. On a eu un groupe qui a vraiment cru au projet, cru aux idées de Isalo, du coach Isalo. Pour le club, c'est un grand pas vers une culture de gagnant.
La méthode Isalo, un coaching particulier où il n'hésite pas à faire des changements incessants toutes les 3 minutes, quitte à changer entièrement son 5. Un coach avec une vision philosophique qui veut faire de Paris la place du basket en Europe.
Il y aura plus de matchs, plus d'argent requis pour ci et ça. Un effectif plus large, ce sera un grand défi pour le club. On sent qu'on est prêt à relever le défi car on veut réaliser quelque chose d'unique en Europe.
Déjà 2 trophées dans la vitrine cette saison pour Paris Basketball, la Leaders Cup et l'Euro Cup. Deuxième en championnat, Paris et Nadir Ifi, l'arrière français feu follet, ne veulent pas s'arrêter là.
Il faut aborder le championnat comme la même façon dont on a abordé l'Euro Cup. Vouloir tout gagner, c'est pas facile quand vous gagnez votre premier objectif, enfin l'objectif global qui est d'accéder à l'Euroleague et gagner l'Eurocup. On va tout faire pour gagner le championnat aussi.
Désormais doté d'une salle moderne, l'Adidas Arena et ses 8000 places, doté d'un ticket pour l'Euroleague, Paris veut continuer de rêver grand avec à terme l'objectif annoncé par le co-actionnaire, l'Américain David Kahn, être le meilleur club d'Europe.
Et voilà, sky is the limit, comme disent les Américains, et David Kahn, le ciel est la limite. Paris qui veut désormais viser le top du basket européen. Paris qualifié donc pour la prochaine Euroleague à la faveur, désolé David, de sa victoire hier lors du deuxième match de la finale de l'Eurocoupe face à Bourg-en-Bresse.
Exactement, je boude un peu ce
oui,
débat.
Écoute,
voilà, on a perdu. Avec beaucoup de... Mais on a perdu avec mérite, avec combativité, avec brio, et surtout face à un club qui a un budget qui est beaucoup plus important que le nôtre.
Et Bourg-en-Bresse aurait eu du mal en Euroleague en plus. Hein,
oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'est encore une, enfin, c'est une histoire d'argent, de captation de talent, etc., etc. C'est toujours la même. Je trouve que le club.
Je suis même pas sûr, je crois qu'il n'y serait pas.
Je crois qu'il n'y serait même pas allé.
Bourg-en-Bresse, s'ils avaient gagné hier. Ouais. Défait 89 à 81.
Mais tu vois que Bourg-en-Bresse c'est un vrai club quoi. C'est ça que je
voulais. Mais Paris c'est pas un vrai club.
Paris t'as quand même d'autres moyens. C'est-à-dire c'est un vrai club de proximité. Une ville comme Bourg-en-Bresse où il y a 40 000 habitants, sortir un club de ce niveau, être en finale de ce type de championnat, c'est fabuleux. Et il y a un vrai montage économique pour supporter ce club. Franchement les dirigeants sont exceptionnels. Il y a une vraie école de formation. Enfin bref, il y a tous les voyants sont verts. C'est un vrai club ancré dans un territoire.
C'était la petite minute Bourg-en-Bresse.
Oui. Mais il faut le dire.
Ouais. On parle de l'ESBB à Vinatas ou pas voilà. Parce que c'est chez
nous. Le débat, les amis,
ils sont en finale. Ils sont en finale.
Et leader sur la cité de Bourg-en-Bresse. Là, ils sont premiers devant le foot, devant le
mais il y a une compétition, puisqu'il y a du rugby. Oui, aussi entre la Pro D2 et la 3e division. Non, c'est une ville vraiment très, très sportive.
On en parle. aura évidemment, on ne manquera rien de toutes ces compétitions sur l'antenne de RMC. Mais le débat, les amis, il est sur le Paris Basketball, qui est devenu, je le disais, le sixième club seulement à remporter, français à remporter une Coupe d'Europe après Limoges, après Pau Orthez, désormais Orthez, Nancy et Nanterre et Monaco. Des clubs comme Cholet, Antibes, mmh. hein, des clubs historiques, n'ont jamais remporté de Coupe d'Europe. Olivier Giraud, toi
qui est parisien,
handballeur, le PSG handball a quand même de la place. Tu penses que le basket peut détrôner le hand et le rugby, les deux clubs franciliens, dans le cœur des habitants de la capitale?
Bah, je sais pas. J'écoute juste que ce monsieur dit et qu'il dit que
c'est ironique.
En voyant ta tête,
il y a pas d'autres clubs, que ça va être le plus grand club. C'est une méconnaissance totale en fait du système français. Demain, quand il sera le plus grand club, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Un championnat du monde des clubs, c'est ça?
Ah, il veut dominer le marché européen.
C'est un discours très ricain. C'est un avocat américain qui a bossé pour la NBA. C'est leur discours aux États-Unis.
Donc c'est un agent infiltré, c'est ça?
Pardon?
C'est un agent infiltré.
Ouais, non, c'est pas un agent infiltré, mais en fait, il transpose la culture américaine sur un club de basket qu'il a repris en 2018.
C'est pas la première fois qu'ils viennent, les Américains, dans le club de Paris.
Oui, il y a déjà eu.
Ce n'est pas la première fois. Oui. Ils avaient déjà ce discours-là. Et on a vu à cette époque-là, et jouaient encore à Coubertin lorsqu'ils ont pris le club.
C'était
déjà un club et une mentalité qui pensait plutôt à faire venir les meilleurs joueurs européens dans ce club-là pour en faire une manne financière après de transfert vers la NBA. Et qu'on a vu ce modèle. On a vu ce modèle avec Boulogne-Levallois. C'est-à-dire que tu avais toutes les plus grandes stars américaines qui étaient dans la salle. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Hein. C'était encore l'année dernière.
Ah, mince. Oui, lorsque.
Et le club, aujourd'hui, on se demande s'il va encore vivre. Donc, les modèles américains, la manière de travailler des Américains, si aujourd'hui, on ne s'en méfie pas parce qu'on les avait arrivés dans pas mal de sports, et pas qu'au basket, hein, dans d'autres sports, si on regarde le résultat arrivé d'Américains et développement du sport en France, je pense qu'on n'est pas loin du zéro pointé.
On a bien compris que tu n'y croyais pas. Il y a eu une expérience à Pau Orthez qui s'est mal passée il y a quelques années. On précise que David Kahn, il est New-Yorkais et qu'il a eu l'occasion de s'exprimer sur le fait que dans une ville comme New York, il y a 11 franchises de sport professionnel. Il y a le hockey sur glace,
mais alors,
le basket,
le baseball. Simon, pourquoi vouloir écraser les autres? Ça, c'est très américain. Je veux devenir le deuxième club de Paris. Mais je pense que dans une capitale comme Paris, il y a de la place pour 4-5 grands clubs.
Quand il dit qu'il veut être le deuxième, il ne dit pas qu'il n'y en a pas derrière. Il dit juste qu'il ambitionne d'être le deuxième et en 2024, c'est que pour aujourd'hui qu'un club fonctionne, il faut une salle. Et qu'aujourd'hui, ils vont avoir une salle
qui vont partager avec le Paris Hand, d'ailleurs.
Oui, mais qui est bien positionnée pour le basket. Ouais. Elle est bien positionnée dans la zone parisienne.
À la frontière de la banlieue nord.
Exactement. Donc la culture basket, la culture urbaine du basket va pouvoir peut-être drainer du spectateur et remplir une salle.
Paris-Coubertin,
très bien. Mais Paris-Coubertin, il faut pousser les murs. Donc aujourd'hui, peut-être que ce savoir-faire américain, cette grande gueule à l'américaine, a peut-être la recette et peut-être l'élément qui manquait les années précédentes, c'est une salle. On n'a pas de salle en France.
Alors, il y a la salle, mais il y a aussi le diffuseur. Hein. Tu sais, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les diffuseurs. Et on a vu que le basket et ses diffuseurs, c'est toujours été compliqué. Et là, dernièrement, on avait la plateforme Swig qui devait tout diffuser, le championnat, l'Euroleague, machin. Aujourd'hui, ils n'ont plus une thune parce que leur président a ses avoirs bloqués en Russie, et donc on se pose la question de savoir comment ils vont être payés. Alors, sur remplir la salle, c'est très bien, mais si tu ne peux pas faire venir les stars américaines parce que tu ne peux pas les payer...
Ça te permet de faire des hospitalités, ça te fait créer du business.
On ne demande pas
au Paris Basket de porter toute la Ligue Nationale de basket,
quand
même.
Écoute, Monsieur Kahn,
il faut déjà qu'il développe son club.
Ça ira les hospitalités pour ceux qui ne fréquentent pas les salles, les loges,
c'est-à-dire que quand tu as des salles, des hospitalités,
ça c'est pas bien.
Il faut savoir créer, il faut savoir créer de la recette pour un club, et la salle, ce que tu as pour un sport co, ce que tu as au-dessus de la tête, est aussi ça, un ça élément
va,
qui est
ça,
important.
Ça va, tout le monde le fait aujourd'hui, mais ça. Ça veut dire oui, enfin, on parle des salles parisiennes, mais regarde,
on s'est
construit Orléans, il y a des salles partout.
Il a raison, oui, mais
la modernité des salles Oui, mais enfin, à Orléans, tu draines pas le même nombre de public qu'à Paris ou en Île-de-France.
Ah bah si.
C'est pas la même chose.
Ah si, non, tu
à Orléans,
trop...
mais.
Au contraire. Bah,
non.
Au contraire.
Ah bah, bien sûr, il y a quasiment que ça comme discipline sportive là-bas.
Non, mais d'accord, mais tu vas drainer plus de personnes. La salle est plus grande à l'Adidas Arena qu'à Orléans.
Bah, il n'y a pas de
différence. Hein.
Y a combien...
Tu sais, on regardait la table, elle fait que 8 000.
Mais
fait...
oui, mais tu, non, non, mais Orléans, tu vas générer places, quand même des recettes.
C'est grand.
Orléans, c'est 10 000. Tu vois,
il l'a rempli.
Il
n'y
a pas de concurrence dans d'autres sports. Le sport numéro 1 à Orléans aujourd'hui, je crois que c'est le basket. Très sincèrement.
Oui, quand t'as pas, quand oui. T'as pas d'autres. Voilà. Non, mais il y a du foot quand même à Orléans.
Moi, je pense que Christophe,
allez, le mot de la fin, David.
Je pense que Christophe a raison sur les droits et tu as raison aussi.
9500 places à Orléans.
Voilà. Et tu as raison aussi sur le modèle économique d'un club dans son territoire. Vous avez tous les deux raison. Mais ce qui peut arriver demain en termes de droits, les Américains, s'ils se mettent en route, ils ont suffisamment de diffuseurs avec ESPN et tout le truc pour acheter des droits très chers pour développer.
Oui, moi, alors la petite sur ESPN, j'attends de.
Non, on ne sait jamais. Non, mais s'ils ont une vraie volonté, tu sais
comme ce qu'ils ont fait ou ils ont vendu des.
Tu connais les montants outre-Atlantique. C'est énorme. S'ils décident de venir
jouer à l'Europe, ça doit les faire rigoler.
Ils le feront.
Pas de star sur le terrain, ça marchera.
Ils le feront que s'il y a des infrastructures, et c'est le cas aujourd'hui.
On verra bien, en tout cas, le championnat de France de basket ne pourra pas se plaindre s'il trouve une nouvelle locomotive. On a Monaco qui marche également très bien en Euroleague. De tout cela, il en sera question, évidemment, dans Stephen Time, le show autour de Stephen Brun et Benoît Boutron. C'est ce soir de 19h à 20h30, évidemment, comme chaque week-end sur RMC. Vous ne bougez pas, les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. Juste le temps pour elle de retrouver la zapette au fond du studio.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
Vous êtes sur RMC, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui d'Olivier Giraud, Christophe Tessieux, David Douillet et Sarah Pitkowski. À 11h, petit débat un petit peu spécial, on se projettera sur l'événement exceptionnel qui attend les auditeurs et téléspectateurs de RMC et BFM, la présence d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, aux côtés notamment d'Apolline de Malherbe, lundi matin, et face à David Douillet, entre autres, pour poser quelques questions. Vous aurez les autres grandes gueules. L'opportunité de confier vos questions à David Douillet qui sera votre porte-parole un petit peu spécial. Tout ça à partir de 11h, mais pour l'instant, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Ah, vous connaissez le principe, une info, elle vous intéresse, vous nous dites pourquoi elle ne vous intéresse pas, vous n'en dégoûtez pas les autres, vous n'avez pas le droit à la parole, si elle n'intéresse personne, on la zappe, on passe à la suivante. Première info de ce zapping, Renaud Lavilloni qui rêve encore des Jeux de Paris 2024, on s'en fout pas, Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas, mais j'ai pas grand chose à dire,
d'accord.
Faut se qualifier.
David Douillet.
Je m'en fous pas.
On ne s'en fout pas, Olivier Giraud.
On s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Je me fous de rien.
Aujourd'hui. Alors, à 104 jours aujourd'hui de l'ouverture des Jeux de Paris 2024, Renaud Lavilloni n'a toujours pas réalisé les minima qui lui assureraient de s'envoyer en l'air l'été prochain lors de l'épreuve olympique de saut à la perche. Il est blessé depuis le mois d'août dernier. À 37 ans, il vient de retrouver les sautoirs. Il devrait reprendre la compétition au mois de mai prochain. Pourquoi pas lors d'un meeting chez lui à Clermont-Ferrand. Il aimerait bien l'organiser. Et sinon, ce sera du côté de Ostrava. Objectif, franchir 5,82 m. Lui dont le record personnel culmine, rappelons-le, à 6,16 m. David Douillet, pourquoi on s'en fout pas?
Mais tout peut arriver à la perche. Franchement, c'est une discipline où sur un bon jour, sur une bonne course, des bons appuis, un bon planté et surtout Renaud avec son talent, il est capable de tout. Donc franchement, moi je le soutiens à fond et surtout pour l'athlétisme français qui a largement besoin de grands talents, il en fait partie, qu'il fasse les Jeux, j'en serais le plus heureux.
Olivier, Christophe,
moi, j'ai envie qu'on instaure des wildcards.
Des wildcards.
Que l'I2AF
à la discrétion de la Fédération internationale.
De la Fédération internationale, de manière à pouvoir qualifier des légendes. En plus, là, en l'occurrence, on a deux cas quand même, hein, parce que Kevin Mayer, il n'est pas encore qualifié non plus pour le décathlon. Et Renaud Lavilloni, ce sont quand même les deux légendes de l'athlétisme français qui sont encore en compétition. Eh bien, moi, je serai Sébastien Coe. J'octroierai le droit de participer sans se qualifier.
C'est déjà pas le souk à ça. Toi, tu nous rajoutes. coûte des trucs, ça va être.
Sarah, il n'y a pas des wildcards en tennis à Roland-Garros.
Tu sais quoi, première fois, non, une des rares fois, mais je suis 1000% d'accord avec toi.
Ah, bah tu vois,
non, mais je pense que ce serait une super initiative d'avoir des wildcards aux Jeux Olympiques. Alors, est-ce que c'est des stars de manière internationale ou c'est des stars du pays dans lequel se déroulent les Jeux?
Tu veux faire un jeu au tennis?
Non, je n'ai pas dit que je voulais faire les Jeux et je ne suis pas une star non plus. Mais je trouve que cette idée.
On va transmettre en tout cas à Sébastien Coe. Je pense qu'il va dire.
Tu ne vas pas demander ça à Monsieur Macron lundi?
Ben, il n'a pas le pouvoir de se.
Non, mais il peut en parler à Sébastien.
On en parle à 11h. Mais oui, on va transmettre à Sébastien Coe et il va dire « Oh, Christophe Cessieux a une excellente idée. »
Mais c'est pas qu'en athlée, c'est dans tous les sports dans ces cas-là.
Allez. Deuxième info, rapidement. Raison. Hugo Humbert éliminé en quart de finale à Monte-Carlo. On s'en fout, on s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Oui, je m'en fous pas.
Tiens donc, David Douillet.
Je vais laisser parler Sarah.
On s'en fout. Alors,
non, je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Sarah.
Qu'est-ce que monsieur?
Je ne me fous de rien.
Il était le dernier Français en lice au tournoi de Monte-Carlo. Hugo Humbert, éliminé hier en quart de finale du Masters 1000, battu par le Norvégien Casper Ruud en 3-7 et 2h06 de jeu. Le score 3-6-6-4-1-6. Le 15e joueur mondial était le premier Français depuis 2018. Et Richard Gasquet a atteint ce stade du célèbre tournoi sur terre battue. Sarah Pitkowski, pourquoi on s'en fout pas?
Parce que lundi sera 13e mondial déjà et que c'est pas un joueur qui est très à l'aise sur terre battue. Il en est à son 3e quart de finale en Master 1000. Il fait une saison juste remarquable. C'est la première fois qu'il fait un quart sur terre battue. Il commence à prendre vraiment ses marques sur cette surface. Il est en train de monter tout doucement. Je pense qu'on peut raisonnablement le voir rentrer dans le top 10. La terre battue, je pense que ce sera jamais sa surface de prédilection quand il joue contre un Ruud qui lift énormément, même s'il a une patte de gauche. Les surfaces rapides lui conviennent mieux, mais c'est un joueur qui est en train de prendre de la stature et de la carrure, que ce soit physiquement ou même en termes de classement. Et il est à surveiller, il a un super état d'esprit. Donc il est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc, ouais. C'est à
vrai
suivre.
Qu'il est moins grande gueule que d'autres jeunes joueurs français.
Tu penses à qui?
Il y en a plein.
Oui,
vous les trouverez tout seul.
Le seul truc,
c'est qu'il est quand même à maturation. Tardive, il y a 25 ans.
Oui.
C'est-à-dire qu'il est plus vieux qu'Alcaraz, que Sinner, que Rune.
Oui, mais si ça avait été une étoile, si ça avait été une méga star, effectivement, il serait déjà top 5. Je veux dire, il y a plein de.
Donc, mais alors, ça veut dire qu'il peut aller.
Il rentrait dans le top 10 sans aucun problème.
C'est quoi le plafond de verre?
Le plafond de verre, c'est le top 5. Ouais. Je pense que Gilles Simon a été 5e mondial. Ben oui. Dire que et il a pas un tennis ultra agressif.
En ayant déjà 25 balais.
Oui, il peut rentrer dans le top 5.
Progresser.
Oui, bien sûr.
5. D'accord.
Oui, et c'est en France, on a plein d'exemples de joueurs et de joueuses qui sont arrivés à maturité tardive. Tu as toujours ceux qui brouillent les étapes et puis il y a ceux qui ont besoin de maturité et il en
c'est
fait
comme
partie.
Comme le fromage.
Maturé.
Maturation.
Beaucoup de sagesse maintenant. Avant, on cherchait des gens, des joueurs qui allaient gagner le Grand Chelem. Maintenant, ça y est,
on commence à faire long.
On s'est résigné.
Et on invite nos auditeurs à faire bien attention de ne pas brouiller les étapes, ma chère.
J'ai dit brouiller les étapes ?
Non, écoute, non, je
j'ai dit brouiller. Oh, mais pardon, c'est pour moi lundi. Allez, c'est pour moi.
Ça sent le journal moyen, ouais, ça. Casper Ruud, Novak Djokovic et Tsitsipas Sinner pour le programme des demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo. Vous ne bougez pas, 10h56, on se quitte quelques instants. Juste le temps pour nos grandes gueules de se rendre un petit peu présentables pour s'adresser au chef de l'État. On vous en dit plus dans quelques minutes. Vous ne bougez pas.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.